Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit sur vous en ce jour béni. Et avant d'ouvrir nos Bibles ce matin, je vous invite à invoquer avec moi la présence du Très-Haut, de celui qui est en ce moment même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Car nous avons tant besoin de sa présence. Nous avons tant besoin de son esprit alors que nous allons considérer sa parole. Notre Dieu, notre Père, merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler pour étudier ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Mais merci pour ton esprit. Merci de nous donner l'assurance que tu nous conduiras, Seigneur, dans toute la vérité. Alors merci d'être parmi nous et que nous puissions, Seigneur, comprendre la nature du message que nous devons donner, ainsi que son caractère, et comprendre et être mis en garde contre ce qui vient de l'ennemi pour tâcher de et tout ce que l'ennemi mettra en place pour comme attaque, comme plan pour modifier, altérer la nature, le caractère de ce message. Merci pour tout notre Père Céleste. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans Daniel, chapitre 1, pour considérer notre texte de base. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, au chapitre 1. Daniel, qui est le livre prophétique qui va avec le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Et considérons ce que Daniel rapporte au verset 7. Et nous allons considérer ce texte et nous allons prendre la lecture à partir du verset premier même. Mais c'est le verset 7 qui va nous intéresser. La troisième année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et la siégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi ordonna à Ashpénaz, chef des eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleins d'intelligence. Et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le verset 7 déclare, et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Beltshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Ce texte, le verset 7, nous laisse penser que les noms babyloniens qui furent attribués aux jeunes Hébreux furent ajoutés à leur véritable nom, mais sans supprimer l'usage, ou même sans supprimer ces derniers ainsi que l'usage de ces derniers, sans même en interdire, voilà, l'usage. Et nous pouvons déduire cela lorsque nous considérons Daniel, chapitre 5, verset 13, où il est dit « Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ?» Donc ici, on voit que le fils de Nebuchadnezzar l'a appelé Daniel et non pas Belshazzar. Donc, nous pouvons déduire, encore une fois, que ici, un nom a été attribué, mais cette attribution, dans le contexte de Daniel, à cette époque-là, n'était pas destinée à supprimer totalement les noms des Hébreux, leurs véritables noms, les noms hébreux qu'ils portaient, que leurs parents leur avaient donné. Et voyez-vous, bien que cela est clair à partir du texte que nous venons de lire dans Daniel 5, en faisant le rapprochement avec Daniel chapitre 1, verset 7, toutefois, cette pratique visa manifestement à faire changer leur caractère, à les détourner de leur fidélité au Créateur. En effet, dans la Bible, le nom exprime, mes amis, il représente, il exprime le caractère, l'autorité. Jacob, dans le sein de sa mère, il a fait une action étant bébé pour supplanter son frère, Ésaü. Et donc, c'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Jacob. C'est parce que c'est ce caractère-là que ses parents avaient vu en lui et qu'ils lui ont donné. Et après, Dieu, quand il a changé, eh bien, il lui a donné un autre nom. Il l'a appelé Israël. Donc, on voit bien. Dans la Bible, il y a plein d'autres exemples que le nom représente le caractère. Le nom que un homme porte exprime et représente le caractère et l'autorité. Le nom que nous avons, mes amis, signifie quelque chose. Et le nom que nous portons exprime un caractère. Voyez-vous? Et concernant la signification des noms, The Brown Driver Brings Hebrew and English Lexicon nous donne les informations suivantes concernant nos jeunes Hébreux. Il nous dit que Daniel signifie Dieu est mon juge. Anania signifie Jéhovah a favorisé. Michaël signifie qui est ce que Dieu est. Et Azaria, Jéhovah a aidé. Voilà la signification selon ce dictionnaire selon cet ouvrage du moins, des noms hébreux que ces jeunes hébreux portaient. Et quant aux noms babyloniens qui leur furent attribués, il nous est dit que Belshazzar signifie seigneur du trésor caché. Shadrach signifie le grand scribe. Meshach invité du roi, et Abednego, serviteur de Nebo. Mais je vous inviterai à considérer maintenant les traductions d'Uriah Smith au sujet de ces noms dans le livre Daniel and Revelation à la page 28, le livre de la version non révisée, la version qui est de 1903-1900, pas celle de 1934, non, la version originale. Et le frère Uriah Smith déclara dans ce livre, je cite, « Ce changement de nom fut probablement réalisé en raison de la signification des mots. Ainsi, Daniel signifie en hébreu « Dieu est mon juge ». Anania, don du Seigneur. Michaël, celui qui est un Dieu puissant. Et Azaria, aide du Seigneur. Chacun de ces noms faisait référence au vrai Dieu et indiquant des rapports avec son culte, furent changés en des noms dont la définition comporte une relation aux divinités païennes des Chaldéens et leur culte. Ainsi, Belshazzar, le nom donné à Daniel, signifie gardien des trésors cachés de Bel. Shadrach, inspiration du soleil que les Chaldéens adoraient. Meshach, de la déesse Shaka, nom sous lequel Vénus était adorée. Et Abednego, serviteur du feu luisant qu'ils adoraient également. Penchons-nous maintenant, mes amis, sur la portée prophétique de ce changement de nom. Mais avant cela, nous allons établir un parallèle qui servira de base à cette étude. Ici, nous avons réalisé un tableau où vous comprendrez que nous mettons en parallèle les quatre jeunes Hébreux avec quatre des messages que nous trouvons dans Apocalypse. Et avec quatre anges, quatre messages que nous trouvons dans Apocalypse. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons réalisé cela. Donc ici, nous faisons correspondre Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge », au premier ange. Anania, don du Seigneur, au second. Michaël, il est un Dieu puissant, au troisième. Et Azaria, aide du Seigneur, au quatrième. L'autre ange d'Apocalypse 18. La signification du nom de Daniel et le message du premier ange, mes amis, sont tellement identiques qu'il n'est pas difficile de conclure que Daniel est un type du premier ange. En effet, Daniel signifie quoi? Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Donc Dieu va me juger. Et qu'est-ce que le message du premier ange annonce? Il annonce l'heure du jugement, mes amis. Il annonce l'évangile éternel, certes, mais l'heure du jugement. Donc c'est intéressant parce que là, il y a un parallèle qu'on ne peut pas nier, mes amis. C'est tellement... ça frappe tellement les yeux que... Ok, alors voyons voir pour la suite. Mais cette similitude, mes amis, n'est pas aussi frappante, vous me direz, chez les trois autres couples. Et cependant, elle existe. Elle existe malgré le manque de clarté, malgré le manque de limpidité manifeste, directe. Commençons avec le message du troisième ange. Cela va être plus simple. Michaël signifie il est un Dieu puissant. Et bien évidemment, je me base sur les traductions du frère Uriah Smith, qui sont beaucoup plus claires quant aux divinités qui sont derrière. OK? Et il est un Dieu puissant. Et mes amis, par quoi nous faisons correspondre Michaël au troisième ange, selon le tableau que je vous propose ici. Et Michaël signifie, il est un Dieu puissant. Alors, en quoi, dans le message du troisième ange, Dieu manifeste-t-il sa puissance? Considérons ensemble 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, où il est dit, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et si nous reprenons à partir du verset 3, vous allez comprendre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et qu'est-ce que nous dit Philippiens, chapitre 4, verset 13? Dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, et nous connaissons ce texte, l'apôtre Paul nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, mes amis, ainsi, sous le message du troisième ange, Dieu manifeste sa puissance par la foi de Jésus, à travers Jésus. En Philippiens, nous comprenons que je puis tout. Donc, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. OK, d'accord, mais comment? 1 Pierre nous dit que qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi. Donc, Christ, par la foi, je puis tout, mes amis. C'est en cela que Dieu manifeste sa puissance, dans le message du troisième ange. Et c'est en cela que le message du troisième ange, incontestablement, mes amis, est l'antitype, ou du moins est typifié par Michaël. OK? Donc jusqu'ici, c'est clair. Nous avons établi ces deux points-là, Daniel et Michaël. Et nous avons établi là, nous venons de le faire, que ces deux noms-là, que ces deux hommes sont des types du message du premier et du troisième ange. OK? Et pour ce qui est du message du deuxième et du quatrième ange, nous constatons qu'ils ont un sens similaire, n'est-ce pas? Car qu'est-ce que nous disent ces deux messages? Ouvrons nos Bibles pour voir le sens. Apocalypse 14, nous considérons à partir du verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. OK? Voilà ce que dit le deuxième ange. Et l'autre ange, en Apocalypse 18, que dit-il à partir sur la partie du verset 22, et il cria avec force et grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit impur, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et au verset premier, qui est cet ange? Verset premier, Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir ou une grande puissance. La terre fut éclairée de sa gloire. Donc ici, mes amis, il est manifeste que ces deux anges, le second en Apocalypse 14, 8, et l'autre ange d'Apocalypse 18, 1 jusqu'au verset 3, eh bien, il est évident qu'ils ont un sens similaire, voyez-vous. Il est évident qu'ils ont un sens similaire, ces deux messages. D'accord? Et, mes amis, les noms d'Anania et d'Azaria, quant à eux, expriment aussi un sens similaire. Oui. Ah. En quoi? Ils expriment tous les deux la faveur et l'aide de Dieu. D'accord? Anania, don du Seigneur. Azaria, aide du Seigneur. Donc, vous voyez que tous les dans ces deux-là, nous avons véhiculé, il est exprimé à travers ces noms que Dieu est favorable, Dieu aide, Dieu soutient. La faveur et l'aide de Dieu sont exprimées. Et, mes amis, en quoi, puisque nous les mettons en parallèle, en quoi, maintenant, Dieu soutient-il son peuple dans et à travers le message du deuxième et du quatrième, l'autre ange d'Apocalypse 18. En quoi, dans ces messages, à travers ces messages, Dieu soutient-il son peuple? Dieu le favorise-t-il? Dieu l'aide-t-il? En quoi? Considérons ensemble Zacharie, chapitre 2. Zacharie, chapitre 2. Zacharie chapitre 2, et lisons du verset 5 au verset 11. Zacharie chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu qui l'entourera, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez hors du pays de l'Aquilon, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, qui demeure chez la fille de Babylone. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillé, qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Car voici, je vais lever la main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous connaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et plusieurs nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Et l'Éternel possédera. Et voilà, on va s'arrêter là. Verset 11. Avez-vous perçu la réponse? Qui se trouve, l'explication, la réponse qui se trouve dans ces versets, mes amis. Ici, nous comprenons que dans le message du deuxième ange, ainsi que de l'autre ange d'Apocalypse 18, Dieu soutient, il favorise, il aide son peuple en l'avertissant, mes amis. Parce que nous avons là des avertissements dans ces deux messages. Et ici, nous voyons que c'est ainsi que Dieu le soutient, l'aide, le favorise. Et oui, quand vous aimez quelqu'un, vous l'avertissez, mes amis, du danger. Et c'est ainsi que vous l'aidez. Si vous voyez quelqu'un qui va tomber dans un... Vous connaissez tout ça. Et on a tous entendu cela. Si vous voyez que quelqu'un va tomber dans un trou, mes amis. Si vous l'aimez vraiment, vous allez l'avertir qu'il va tomber dans un trou. Donc l'avertissement n'est pas une mauvaise chose, voyez-vous. Bien que C'est un peu, ce n'est pas, on lui dit pas forcément je t'aime, ou on lui dit pas forcément je t'apprécie, mais on lui dit plutôt tu vas tomber, fais attention. Tu vois, tu risques de tomber là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous l'aimez, vous l'appréciez, vous voulez l'aider. Et si vous ne l'appréciez pas, vous ne l'aurez pas averti du danger, mes amis. Et c'est en cela que Dieu fait un don, en cela que Dieu favorise, qu'il aide. D'accord? En avertissant son peuple. OK. Et il s'ensuit aussi quelque chose lorsque Dieu fait cela. Ce qui s'ensuit est que, lisons la réponse, lisons la suite dans Proverbe, chapitre 16, Proverbe, chapitre 16, oui, Proverbe, chapitre 16, verset 15, Proverbe chapitre 16, verset 15, il s'ensuit, et lisons, le visage serein du roi donne la vie, et sa faveur est comme la nuée qui porte la pluie de l'arrière-saison. Lisons également chapitre 19 de Proverbe, Proverbe chapitre 19, verset 12. Mais retenez, hein, gardez un doigt dans Proverbe 16 et rendons-nous dans Proverbe 19, verset 12. Proverbe, chapitre 19, verset 12, où il est dit, l'indignation du roi est comme le rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Dans ces deux textes-là, on nous parle du roi, mes amis. Et on nous parle de sa faveur. Et sa faveur engendre quoi? La pluie de l'arrière-saison, la rosée sur l'herbe de nos vies. C'est pour ça qu'on dit qu'on l'a fauché comme l'herbe. C'est quand tu es mort. Cela représente, mes amis, la pluie de l'arrière-saison. Ce qui résulte de l'aide, du soutien du Seigneur, quand cela est accepté, l'aide, vous pouvez mettre aussi favoriser, soutien, aider pour Anania, Azaria, deuxième et quatrième, l'autre ange d'Apocalypse 18. Eh bien, Dieu soutient son peuple en l'avertissant. Et ce qui s'ensuit est la pluie de l'arrière-saison. Lorsque l'on accepte, mes amis, ces messages, ce qui s'ensuit, c'est la pluie de l'arrière-saison. Car oui, car quand on est favorisé du Seigneur, mes amis, eh bien, cela est comme la nuée qui porte la pluie de l'arrière-saison. Proverbe 16, 15 et 19, 12 disait, moi-même j'ai perdu la page. J'ai retrouvé que, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Et nous comprenons pourquoi, après ces messages, les gens reçoivent la pluie de l'arrière-saison, les amis. OK? Donc, ainsi, après avoir établi ces parallèles, après avoir établi la solidité de cela, après avoir établit que Daniel est un type du message du premier ange, que Anania est un type du message du deuxième ange, que Michaël est un type du message du troisième ange, et que Azaria est un type du message de l'autre ange, d'Apocalypse 18. Penchons-nous maintenant sur la portée prophétique de ce changement de nom. Car s'ils sont un type, c'est que nous avons établi le parallèle. Il y a le type et l'antitype. Donc, il y a forcément une portée prophétique. Il y a une signification, voyez-vous. Les messages des anges d'Apocalypse, notamment 1er, 2e, 3e et également 4e, sont symbolisés partout dans les Écritures. Partout où vous voyez 3 plus 1, 3 plus 1, c'est les trois premiers messages et l'autre message d'Apocalypse 18. Donc, nous avons là plein, nous avons plein, 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 plein. Vous connaissez certainement cette étude. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, voilà. Ce parallèle-là que nous venons d'établir aujourd'hui est à ajouter. Cela est à ajouter à tous ces symboles que nous trouvons, de manière à avoir une image, mes amis, une image, de manière à savoir, excusez-moi, de manière à savoir ce que va être la consistance de ces messages et de manière à savoir les circonstances. Excusez-moi. Les circonstances qui accompagneront ces messages. D'accord? Donc, la portée prophétique de ce changement de nom. Considérons-la. Mes amis, dans la Bible, il faut savoir que le chiffre 4 représente la globalité. Ainsi, les noms des quatre jeunes Hébreux et les messages des quatre anges que nous avons mis en parallèle sont représentatifs du caractère divin, la globalité. Donc cela représente l'ensemble du caractère divin. Et notons que dans le récit biblique, mes amis, Daniel est toujours cité en premier. Et Azaria l'est toujours en dernier. Lorsqu'ils sont tous présentés ensemble, ces quatre jeunes Hébreux-là, Daniel vient toujours en premier dans le récit biblique et Azaria est toujours cité en dernier. Il y a un ordre. Peut-être dit toujours que Daniel, Anania, Michaël, Azaria. C'est toujours dans cet ordre-là qu'il le donne. Et mes amis, il en est de même, puisque nous l'avons qu'une fois dans l'Apocalypse, mais cela est tout comme le premier ange vient toujours avant le quatrième. Enfin, toujours. C'est comme ça que c'est présenté dans Apocalypse. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième et l'autre. L'ordre a été établi, mes amis, dans l'Apocalypse, pour ça. Ainsi, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième ange se suivent, tout comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria se suivent dans le récit biblique. Et Daniel, le premier, et Azaria, le quatrième, sont le début et la fin, l'alpha et l'oméga d'une chaîne de fidèles, laquelle est le symbole des captifs hébreux qui restèrent fidèles lorsqu'ils étaient à Babylone. C'est-à-dire, ils représentent, mes amis, l'Église, une chaîne de fidèles, c'est-à-dire l'Église. Et notons à présent que le nom païen qui fut donné à Daniel est lié à la divinité païenne Bel, et que celui donné à Azaria l'est à Nebo. Et si nous suivons la logique de début et de fin, mes amis, Bel et Nebo sont l'alpha et l'oméga d'une chaîne de divinités païennes. Bel, c'est-à-dire le soleil, et Bel, le soleil, et Vénus et Nebo. Donc je reprends. Si nous suivons la logique de début et de fin, Bel et Nebo sont l'alpha et l'oméga d'une chaîne de divinités païennes. Laquelle est le symbole de toutes les divinités païennes? Laquelle représente l'alpha et l'oméga, en fait? Donc, on exprime ici l'ensemble des divinités païennes. Aussi, cette chaîne symbolique, Nebuchadnezzar voulait la voir portée par l'Église de Dieu à Babylone. Lorsqu'il donna les noms, par Ashpenaz, il fit attribuer ces noms aux serviteurs de Dieu, captifs à Babylone. Mais ce que Nebuchadnezzar ne savait pas, mes amis, ou peut-être voulait ignorer, je ne sais pas, c'est que quelques années auparavant, Dieu avait annoncé que ce système d'idolâtrie était tombé. Oui, mes amis. Avant que les quatre Hébreux, arrivent à Babylone, avant cela, Dieu avait déjà annoncé que le système d'idolâtrie qu'on allait leur faire porter à travers les noms qu'on les avait attribués, ce système-là était tombé. Tout comme cela est fait dans Apocalypse. C'est tombé, elle est tombée, elle est tombée. Où est-ce que cela est dit, mes amis? Considérons ensemble Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. Et lisons le verset 1 et 2. Bel est renversée, Nebo tombe, leurs statues s'en vont sur les animaux, sur les bêtes de somme. Les dieux que vous portiez, on les charge comme un fardeau sur la bête fatiguée. Ils sont renversés et tombent ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Eux-mêmes, ils s'en vont en captivité. Mes amis, cela fut écrit avant que les quatre Hébreux soient captifs à Babylone. Avant que Daniel, Anania, Michaël et Azaria soient établi à la cour du roi, avant qu'il ne se voit attribuer les noms Shadrach, Meshach et Abednego, et j'en oublie un, Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu avait déjà dit que toutes ces divinités-là, mes amis, étaient tombées. Dieu avait déjà prophétisé. Elles sont renversées, elles sont tombées. Il nous est présenté ici l'impuissance et la chute des divinités babyloniennes. Bel et Nebo, à savoir l'alpha et l'oméga de l'idolâtrie, l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles, mes amis. Puisque rappelez-vous, Daniel représente le premier ange. Et Azaria, l'autre ange d'Apocalypse 18. Et ils se suivent constamment. C'est toujours Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Quand ils sont tous nommés ensemble, c'est toujours cet ordre-là dans laquelle la Bible les place. Et mes amis, dans Apocalypse, il y a le premier, le deuxième, le troisième et l'autre ange. L'ordre est donné. Ainsi, lorsque l'on prend le premier de ces hommes, et que l'on prend le dernier, nous avons là le début et la fin, l'alpha et l'oméga Lorsque vous avez l'alpha et l'oméga de quelque chose, lorsque vous tenez une corde par son alpha et par son oméga, mes amis, vous tenez toute la corde, mes amis. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc je reprends. Ici, il nous est présenté l'impuissance et la chute des divinités babyloniennes, Bel et Nebo, à savoir l'alpha et l'oméga de l'idolâtrie, l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles, mes amis. N'avons-nous pas vu l'accomplissement de ceci dans le fait que l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles fut introduite dans le mouvement adventiste du septième jour avec l'introduction finale de la Trinité, mes amis? Si, nous avons vu cela se faire. Nous avons vu cela se faire dans au sein de du peuple qui avait vocation à annoncer le message des temps de la fin. Le mouvement adventiste que Dieu a conduit jusqu'à s'organiser pour devenir l'église adventiste du septième jour pour ceux qui ont persévéré dans la foi. Et dans ce peuple, mes amis, il s'est produit ce que Dieu avait déjà annoncé à Babylone, bien des années avant, bien des siècles avant. Dieu avait déjà annoncé cela, mes amis, dans le récit de Daniel, d'Anania, Michaël, d'Azaria. Nous avons ici quatre hommes qui représentent le caractère divin par leur nom, le nom hébreu qu'ils ont, et qui se voient ensuite attribuer un caractère idolâtre lorsqu'on leur attribue des noms païens, des noms babyloniens, des noms idolâtres. Et dans l'Apocalypse, mes amis, nous avons aussi quatre anges qui représentent le caractère divin. Et en quoi cela? Par le contenu de leur message. Un message pour les temps de la fin qui commence en 1798, mes amis. À partir de cette date-là, Dieu prépare, Dieu donne un message final à la terre, donne une vérité présente pour ce temps. Et il révèle son caractère lorsque vous étudiez correctement ces messages. Le caractère de Dieu est révélé, mes amis. Prêtons attention maintenant à la déclaration de l'esprit de prophétie concernant l'avenir de la dénomination. Et nous lisons cela dans Special Testimonies, série B, number 2, page 54 et paragraphe 3, où elle déclara: l'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande œuvre de réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du septième jour et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers même de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quel en serait le résultat? La suite est la réponse. Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qu'il a révélé, qu'il a créé du moins. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Mais Dieu étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Leur fondation serait posée dans le sable et l'orage et la tempête en balayeraient la structure. Permettez-moi de vous récapituler ce qu'elle est en train de dire là, mes amis. À son époque, son vivant, la dénomination des Adventistes du septième jour n'était pas dans l'apostasie, dans un état généralisé d'apostasie, mes amis. Je précise, dans un état généralisé d'apostasie. Il y avait des problèmes, certes. Il y avait des hommes qui engendraient, qui portaient des problèmes. Et bien évidemment, le corps a fait des erreurs. Ils ont commis des erreurs. Mais ils n'étaient pas installés. Et cela n'a pas perduré. OK? Donc, voilà pourquoi elle ne dit pas cela à son, elle n'applique pas ça à son époque, mes amis. Là, nous avons ici, en quelque part, une prophétie, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est en train d'annoncer ce qui va se passer si on fait une réforme, si on change ce qui est bon que l'on a. Je parle à son époque. Si nous, là, nous avons ça, si des gens se lèvent et qui disent qu'il faut faire une réforme, qu'il faut changer les choses, voilà ce qui va se passer. Et à son époque, il y avait Satan qui insinuait à des hommes qu'il fallait réformer au sein de la dénomination des Adventistes du septième jour. Et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers même de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Mes amis, lorsque vous parlez à des adventistes aujourd'hui et que vous leur expliquez les doctrines historiques, les doctrines qui étaient jadis, malheureusement, la part qui était portée par la dénomination, notamment la véritable compréhension du sanctuaire, la véritable compréhension de l'expiation, la véritable compréhension de la nature du Christ, lorsqu'il était sur terre, mais aussi la véritable compréhension de la divinité, eh bien, et que vous allez jusqu'au bout avec eux, et qu'ils se rendent compte que accepter ces compréhensions, réaccepter du moins ce que l'Église portait officiellement avant 1980 et officieusement avant 1931, oui. Eh bien, ces gens-là vous disent, ouais, mais il nous faut rester dans l'organisation. Restons dans l'organisation. Mais quand ils vous disent ça, quand les gens disent cela, ils font référence à la dénomination, en fait, la structure, l'administration. Mais ici, Ce n'est pas ce que Dieu exprime à travers sa messagère. Ici, il dit que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers même de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Ici, la réorganisation dont on parle, mes amis, c'est le fait de changer les doctrines. Donc, lorsque vous avez des gens qui vous disent ça aujourd'hui, mes amis, c'est eux qui devraient sortir de là où ils sont et rejoindre les rangs de ceux qui sont historiques, mes amis. Parce que c'est eux qui sont dans la nouvelle organisation, dans la réorganisation. Puisque ici, la réorganisation dont Ellen White parle de manière péjorative et qui est mauvaise, c'est la réorganisation en matière de doctrine, mes amis. Et aujourd'hui, cela s'est accompli depuis bien des années, mes amis. Et c'est ces gens-là, tous ces adventistes-là, mes amis, qui sont dans cette nouvelle réorganisation parce que les doctrines ont été changées, c'est eux qui doivent quitter pour revenir dans l'ancienne organisation, dans les anciennes doctrines, les doctrines que Dieu a données. Et elle dit ce qui se passe. Elle dit ce qui se passe si cette réorganisation est faite au sein de la dénomination. Au sein de la dénomination. Et ce, pour mettre en garde les adventistes à son époque, pour pas que cela ait lieu. Voilà pourquoi elle le fait. Elle dit que ce qui va se passer, c'est que les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste, serait abandonnée. C'est logique. Notre religion serait changée. C'est logique. Si vous changez la doctrine, mes amis, vous abandonnez les principes de vérité et la religion est changée, mes amis. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. C'est logique aussi. Comme je vous ai dit, vous prenez la compréhension que James White, Uriah Smith, G.N. Andrews portaient, ils avaient, et même Ellen White, qu'ils avaient concernant le sanctuaire, l'expiation, la nature du Christ sur terre, l'incarnation du Christ sur terre, l'incarnation du Christ tout simplement. Mais aussi la divinité, mes amis. Et vous mettez ça en face de la compréhension que la dénomination présente aujourd'hui. Eh bien, mes amis, ces gens-là vont vous dire, mais ces principes-là, mais c'est de l'erreur. Et ce que vous entendez dire, en fait. Ah oui, mais les pionniers n'étaient pas dans la vérité. Ah oui, mais c'est... En fait, ils mettent ça au compte de l'erreur, mes amis. Ils mettent le passé de l'adventisme au compte de l'erreur. Tout ce que Dieu a donné comme vérité, ils le mettent au compte de l'erreur. Avec l'argument de dire, oui, mais au départ, ils mangeaient du porc. Donc la lumière a été progressive. Voilà, des arguments qui présentent pour vous dire que ben, là aussi, dans les doctrines, Dieu n'a pas donné d'emblée toute la vérité. Sauf que, mes amis, c'est faux. Ce que Dieu a révélé était vérité. Et quand il a révélé, c'est qu'avant, ce n'était pas clair. Et quand il a révélé, là, c'était devenu clair. Donc, c'était la vérité, mes amis. Une nouvelle organisation serait établie. C'est ce que nous disions, mes amis. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle organisation qui est établie. Elle porte le nom, comme nous avons vu au camp meeting, elle porte le nom. Mais c'est pas l'adventisme le véritable adventisme du septième jour, mes amis. C'est de l'adventisme génétiquement modifié. Ou si vous préférez, théologiquement modifié. Des livres d'un ordre nouveau seraient établis. C'est évident. Si vous avez changé la doctrine, vous devez éditer des livres qui portent cette nouvelle doctrine. Serait écrit. Oui. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. On réfléchit par nous-mêmes. C'est plus la parole de Dieu qui détermine ce qui est bon, pas bon. Non. On introduit la philosophie, mes amis. Et la Trinité, c'est de la philosophie, mes amis. Ça n'a rien de biblique. Voyez-vous, j'ai du mal à comprendre comment des gens qui doivent enseigner les pasteurs, ils ont fait des études de philosophie, mes amis. En quoi Dieu demande à l'Église du reste d'étudier la philosophie pour être pasteur ou pour pouvoir enseigner après? Je ne vois pas qu'est-ce que la philosophie devrait faire dans la tête des enfants de Dieu, dans la tête des serviteurs haut placés, entre guillemets, haut placés de Dieu, mes amis. Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Pourquoi il dit dans les villes ici, mes amis? Toutes les institutions médicales, maisons d'édition, écoles, mis à part certaines qui sont à but d'évangélisation, mis à part celles-là, toutes les autres institutions, mes amis, si voilà, bon, je prends que ces exemples-là, doivent être établies à la campagne, mes amis. OK? Et les églises aussi, sauf certaines à but d'évangélisation, de manière à toucher les gens dans les villes et après à les faire sortir. Mais sauf que là, mes amis, on voit que les gens vont en ville. La conférence générale avant, elle n'était pas à Washington, mes amis. Elle était à Battle Creek. Et ils sont allés la mettre à Washington, D.C. Pourquoi ils sont allés mettre ça en ville? Ça ne devait pas être, ça ne devait pas être en ville. Pourquoi? Et vous regardez dans le monde aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de choses ont été mises en ville, mes amis. Mais ça ne devait pas être ainsi. Ça ne devait pas être ainsi. C'est pour ça qu'elle dit qu'ils iront en ville et ils feront une œuvre merveilleuse. Mais ce n'est pas merveilleusement pieux, ce n'est pas merveilleusement bien, c'est merveilleusement mauvais. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. Pas difficile après de comprendre pourquoi on aura des problèmes avec la marque de la bête. Et on ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. En 2012, École du Sabbat, qu'ont-ils dit? C'est ferme et inflexible. La doctrine de la Trinité, c'est ferme et inflexible, mes amis. Personne ne doit s'opposer à cela. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Pas moi qui le dis, mes amis. Pas moi qui le dis. Donc, ils vont pas vous dire, ils vont pas vous enseigner que le vice, c'est bien, du haut de la chair comme ça. Ils vous le diront pas comme ça, mes amis. Mais en matière de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, en matière de justice et d'iniquité, mes amis, implicitement dans les discours, puisque la doctrine a changé, puisque le Dieu du sabbat, ainsi que le sabbat sont pris à la légère, puisque le gouvernement de Dieu, mes amis, n'est plus respecté, implicitement, mes amis, dans la tête, le vice remplace la vertu. Ainsi, mes amis, tout comme les quatre jeunes Hébreux, les messages des trois anges, ainsi que de l'autre ange, qui est arrivé pour la première fois en 1888, mes amis. Oui, en 1888, pour la première fois, l'autre ange est descendu. Apocalypse 18. C'est en 1888 pour la première fois qu'il est descendu, mes amis. Eh bien, tout comme les quatre jeunes Hébreux, les messages des quatre anges se sont vus attribuer un caractère idolâtre. Ils se sont vus attribuer leur... nous avons vu l'altération de leur signification. Leur signification a été altérée. Et ce, à cause du fait qu'il y a eu une réforme dans l'adventisme du septième jour. Et à cause de cette réforme, mes amis, un caractère idolâtre a été attribué à ces messages. Et leur signification a été altérée. Et tout comme Dieu avait présenté par son serviteur, Ésaïe, l'impuissance et la chute des divinités païennes avant la captivité d'Israël ancien à Babylone. Il a de même, mes amis, Dieu a de même annoncé par ses serviteurs, nos pionniers, l'impuissance et la chute de la Trinité avant que la dénomination des Adventistes du septième jour, Israël moderne, à cette époque où nos pionniers étaient vivants, avant qu'elle ne soit captive du catholicisme. Ok? Je précise quelque chose. Avant de lire ce que James White a déclaré, avant de lire l'antitype, l'une des déclarations qui est antitype à ce que Ésaïe a dit au chapitre 46, juste pour Israël, quand vous lisez les écrits d'Ellen White, il y a deux significations à Israël, même des fois trois. Elle dit que Israël, ça correspond à la nation d'Israël ancien. Des fois, elle le précise, ancien Israël. Et elle va aussi faire comprendre que, au tout début du mouvement adventiste, Israël, c'était le protestantisme, en fait. OK? Et après, Israël va devenir le mouvement adventiste, la dénomination des adventistes du septième jour, en fait. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit cela, en fait, aujourd'hui. Que j'ai dit cela tout à l'heure. Et considérons ce que James White, comment James White déclara la chute de la Trinité, tout comme Ésaïe l'a fait avant même que la dénomination l'accepte. Il déclara dans The Advent Review and Sabbath Herald, le 12 septembre 1854, page 36, paragraphe 7, comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont apportées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité, l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sur la terre? Nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sous la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut à travers Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux. Et plus loin, il dit, « Et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. » Mes amis, tout comme Ésaïe, James White ici, et je ne vais pas prendre le temps de citer G.N. Andrews, Uriah Smith, et le père Wagoner, etc., mes amis. Ils avaient tous déjà annoncé que les doctrines de Babylone, mes amis, étaient incompatibles du fait qu'elles soient des erreurs fondamentales, étaient incompatibles avec les vérités, les principes fondamentaux de vérité que le peuple, que l'Église du reste doit avoir sous ces messages du premier au quatrième. Récemment, quelqu'un m'a écrit, m'a contacté pour me parler, me demander des choses, comme pas mal de personnes d'ailleurs. Et il m'a demandé de comment les gens réagissent au message. Je lui ai dit, mais au message des trois anges. Je lui ai dit, mais de quel message tu me parles? Et il a insisté en fait. Oui, mais je veux juste savoir comment les gens ici en France réagissent au message en fait. Comment ils l'acceptent, etc. C'est quoi? Il voulait prendre la température en fait. Mais je lui ai dit, mais de quel message? Qu'est-ce que pour toi le message des trois anges? Parce que cette personne-là est adventiste du septième jour. Et il me dit, oui, non, mais je ne parle pas de la dénomination, je parle de l'Église, de l'Église. Je lui dis, oui, non, mais j'ai compris, mais je lui dis, mais pour toi, qu'est-ce que le message des trois anges? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que cela contient? Et il a commencé à se vexer, puisque je ne répondais pas à sa question tout de suite. Mais je lui ai dit, mais je veux répondre à ta question. Mais il faut d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que tu mets dans le message des trois anges? Et il voulait toujours pas répondre. Alors je lui ai mis une série de citations des pionniers par rapport à la Trinité. Et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord avec ce que les pionniers prêchent? Il m'a pas répondu oui, hein. Il m'a dit, moi je ne crois pas. Il m'a dit, moi, je ne crois pas en la Trinité. Je ne crois pas en la doctrine papale de la Trinité. Et puis après, il m'a dit au revoir parce que je l'avais vexé. Parce que je n'ai pas répondu à sa question tout de suite. Il m'a accusé de plein de choses, notamment. Tout ça parce que je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qu'il entendait par le message. Puisque, je suis désolé, tu viens me voir. Tu me poses des questions sur mon ministère et après tu me dis mais comment les gens acceptent le message? Ben, je vais te répondre moi. Mais ma réponse, si tu veux la comprendre, tu dois savoir quel message que je donne. OK? Et moi je vois que toi et moi apparemment on donne pas le même message. Donc je te pose la question, qu'est-ce que tu mets dedans? Et quand il a réagi comme ça et fin de la parenthèse. Quand il m'a dit au revoir et qu'il m'a exprimé son mécontentement, etc. Je lui ai dit, tu as vu comme tu agis? C'est exactement comme ça que les gens réagissent au message des trois anges que je prêche. Il voulait savoir comment les gens réagissent. Au final, du fait de son comportement, je lui ai dit, voilà comment les gens réagissent comme toi. Fin de la parenthèse. Et voyez-vous, mes amis, il est important de savoir quel message que nous prêchons. Car aujourd'hui, il y a une contrefaçon, mes amis, qui est mondiale, du fait de la nouvelle réorganisation. Voyez-vous, aujourd'hui, on a tâché d'attribuer, et c'est cela en fait. Il y a un copier-coller qui a été fait, et un caractère idolâtre a été attribué à ce message. Et mon point était aussi de dire que cet homme m'a dit, je ne crois pas en la doctrine papale de la Trinité. Et j'ai décortiqué sa phrase, mes amis. Et il n'a pas dit je ne crois pas en la Trinité. Il a dit je ne crois pas en la doctrine papale de la Trinité. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est parce que, mes amis, il y a une doctrine adventiste de la Trinité. Et certains sont tombés dans le piège, certains sont tombés dans l'écueil de dire et de croire que la Trinité adventiste est différente de la Trinité catholique. Mais mes amis, mais c'est faux, mes amis. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de différence, mes amis. Il n'y a pas de différence. Les différences que les gens essayent de présenter sont de manière à mettre des barrières pour montrer que non, nous ce qu'on dit c'est vrai. Mais mes amis, c'est complètement faux, mes amis. Et je ne prendrai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est complètement faux ici, car cela me prendrait du temps, mais c'est faux. Donc, voyez-vous, ici, comme nous l'avons vu, Dieu avait déjà annoncé, mes amis, que on allait tâcher de changer le caractère de ces messages. En Daniel, Dieu nous donne des types pour nous montrer que l'ennemi va tâcher de changer, d'attribuer une nouvelle valeur, d'attribuer un nouveau caractère, une nouvelle signification à ces messages, mes amis. Voyez-vous? Mais ces messages, mes amis, le caractère de ces messages, le caractère du message des temps de la fin est inchangeable, mes amis, car Daniel et ses compagnons, bien qu'on leur avait attribué ce nom, leur caractère n'a pas pu être altéré par ce nom, mes amis. Il y a une différence entre la captivité physique et la captivité spirituelle. Oui, parce que Daniel et ses compagnons étaient en captivité physique, mais pas spirituelle. Donc il y a une différence entre la captivité physique et spirituelle. Quand vous êtes physiquement en captivité, mes amis, vous pouvez encore choisir de ne pas être spirituellement captif. Mais quand vous êtes un captif spirituel, vous n'avez plus le choix, ou du moins plus assez de lumière pour choisir. Et dans ce cas, mes amis, il est facile, oui, il est facile à ce moment-là de vous emmener en captivité physique. Il est facile à ce moment-là, mes amis, de vous faire prendre une marque sur la main, étant donné que vous l'avez déjà prise au front. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Traduction de ce que je viens de dire. Lorsque l'on accepte les erreurs fondamentales qui ont été établies officiellement par la nouvelle organisation, mes amis, adventistes du septième jour moderne, mes amis, nous sommes captifs spirituels. À l'instar, pas l'instar, à l'inverse de Daniel. Parce que Daniel, lui, et ses compagnons, ils étaient captifs physiquement parlant. Mais remarquez qu'on a tâché de les rendre captifs spirituellement parlant en leur attribuant un nouveau nom, en leur attribuant un nouveau caractère. Mais ils n'ont pas. Ça n'a eu aucun effet sur eux. Parce qu'ils savaient que toutes ces divinités-là étaient déjà tombées, mes amis. Ça n'avait aucune puissance sur eux. Et donc, bien que physiquement captifs, mais spirituellement pas, ils ne l'étaient pas, mes amis. Or, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, ceux qui ne correspondent pas à Daniel, mais qui sont tombés dans le piège, parce qu'il y avait d'autres Hébreux, mes amis. Le texte, si on prend plus de temps pour étudier, on comprend que Daniel et ses compagnons étaient une catégorie d'Hébreux, mais le texte ne nous parle pas autant des autres comme il nous parle d'eux en fait. Mais il y en avait d'autres. D'autres Hébreux. Et le texte ne nous parle pas d'eux. Cela veut dire que ces autres Hébreux-là, mes amis, ils ont été faits captifs spirituels, captifs physiques, mais aussi spirituels. Il n'y a que ces fidèles-là dont la Bible parle, mes amis. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui ont été faits captifs spirituels par le Vatican, et ce, à travers la main de l'adventisme moderne, tout cela représente cette catégorie d'hébreux-là, mes amis. Et ils ne peuvent pas être classés avec Daniel et ses compagnons, non, parce qu'ils sont captifs spirituels. Daniel et ses compagnons ne l'étaient pas, mes amis. Eux, ils sont captifs spirituels aujourd'hui, les adventistes modernes. Captifs spirituels. Et vous comprenez à présent pourquoi, et je vous le dis, il n'est pas à ce moment-là difficile de les emmener en captivité physique. Voyez-vous? Donc, préparons-nous, mes amis. Tâchons de connaître le caractère du message. De manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir d'emprise sur nous de manière physique. Tâchons de savoir ce qu'est le caractère de Dieu. De manière à ne pas nous laisser piéger par l'ennemi, mes amis. De manière à être ce que Dieu veut que nous soyons là où il veut que nous soyons. Car le caractère, mes amis, est ce que nous emporterons. Et Daniel et ses compagnons ont manifesté que leur caractère ne pouvait pas être changé. Le nom, on ne leur a pas dit, on vous interdit d'utiliser votre nom, mais on vous attribue un nouveau nom. Et ce, dans le but de les conduire, de leur attribuer un nouveau caractère. Mais ils n'ont pas accepté. Et ainsi, mes amis, aujourd'hui, nous voyons cela se répéter. Et comme Daniel et ses compagnons, nous pouvons mettre de côté ce nouveau caractère que l'on veut attribuer à notre foi. Nous pouvons, cela n'a aucune puissance pour nous, car ce système d'idolâtrie, ce caractère idolâtre, cette signification altérée est déjà tombée, mes amis. Dieu l'a déjà dit, elle est tombée, elle est tombée. Depuis, mes amis, 1800, depuis sous le message du deuxième ange, je vais pas dire 1800, mais je faisais référence aux années 1800. Depuis sous le message du deuxième ange, mes amis, Dieu a dit que Babylone est tombée. Non pas la mère, l'église de Rome, mais c'était les filles, mes amis. Le protestantisme, soi-disant dit protestantisme, est tombé. Donc dès que vous avez des gens qui sont protestants et qui adoptent l'erreur, ils sont tombés avec, mes amis. Et à la fin des temps, mes amis, et nous arrivons à ce moment-là, mes amis. Nous devons également expliquer aux gens que le système est tombé, mes amis. Babylone est tombée. Et leur donner leur présenter le véritable message, le véritable caractère du message. Amen. Prions pour que le Seigneur nous donne d'être des Daniels, d'être aussi fidèles que lui, quel que soit ce que l'on met sous notre tête. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette compréhension que tu nous as apportée en ce matin. Merci de nous montrer, Seigneur, que tu es l'auteur de la vérité et de l'ordre, et non de la confusion et de l'erreur. Seigneur, nous désirons être fidèles. Nous désirons connaître ton caractère et savoir de qui nous sommes les enfants, de manière à ne pas nous laisser piéger par ce que l'on voudrait attribuer sur nous, ce que l'on voudrait nous attribuer du moins. Seigneur, tu vois à quel point l'ennemi a cherché de mettre la confusion dans le message pour les temps de la fin. Tu vois comment l'ennemi cherche à chercher et a pris au piège bon nombre de ceux qui pensent croire et porter ce message. Mais en réalité, ils ne sont pas conscients que Seigneur, il porte un message qui n'a pas ton empreinte. Il porte un message qui ne porte pas ta signature. Il porte un message altéré. Un message qui a un caractère idolâtre. Seigneur, que tu puisses leur faire entendre et comprendre que Babylone est tombée. Que tout ce qui a un caractère idolâtre est tombé. Et que tu désires les affranchir spirituellement, physiquement, de manière à ce que nous puissions être complets en Jésus-Christ et te glorifier dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ce message et que nous puissions être tes serviteurs à toujours et à jamais. Merci pour tout, notre Père Céleste. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen.